Radio Grand Ciel présente Be Jazz, soyez jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Accompagnée pour ces émissions de Patrick Durand, un médecin qui explique le cheminement de pensée par la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Et Gilles Secaz, un journaliste qui pratique la guitare dans des formations de jazz. Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Dans notre série Jazz dans le cinéma, nous vous proposons d'évoquer un film britannique de Lewis Gilbert, Alfie le dragueur, avec dans le rôle titre Michael Caine et une partition musicale signée Sonny Rollins. La trame est simple, Alfie Elkins ne peut s'empêcher de séduire toutes les femmes qu'il côtoie, sans préoccupation d'âge ou de situation de famille. À la longue, il commence à ressentir les premiers signes de sa vulnérabilité et finit par être envahi par un immense sentiment de solitude. Il termine seul avec comme unique et dérisoire ami un chien qu'il a rencontré fortuitement dans un garage.
En illustration sonore, nous allons écouter Sonny Rollins, qui joue la version du film de l'Alfie's Theme. Nous avons donc écouté l'introduction de Sonny Rollins à ce film, un film un petit peu particulier que nous allons vous décrire. Alors, Alfie se retrouve sur les rives de la Tamise, à l'intérieur d'une berline. À l'intérieur de sa berline, on voit une conquête, comme les multiples conquêtes que Alfie va faire. Bien sûr, situation assez inconfortable dans cette berline. Et puis, l'avertisseur de la voiture sur lequel on s'appuie et qui fait un bruit infernal, tout ça va le contraindre à sortir du véhicule et à s'adresser directement au spectateur pour se présenter et ensuite lui raconter ses aventures. Un chien qui errait par là a assisté à la scène. Et c'est ainsi que, sous des auspices comiques et moqueurs, que commence le film avec son générique.
À l'instar d'une pièce de la biche, le procédé qui consiste à interrompre brutalement le récit pour créer une sorte de connivence entre le spectateur et le personnage central sera employé tout le long du film. On verra tour à tour Alfie s'adresser directement au spectateur alors que, par exemple, il est en train de se faire ausculter par le médecin et c'est effectivement assez comique en soi et en même temps assez inattendu. Donc cette manière de procéder sert de moteur au récit en portant à l'image à la fois les pensées intimes du personnage et un nouveau ressort dramatique. Il se révélera capital pour la fin du film. Nous écoutons Is Younger Than You Are, une version enregistrée et éditée sur album de la musique de Sonny Rollins.
Oui, non. Peut-être vous pourrez nous parler un petit peu de Sonny Rollins, parce que c'est quelqu'un qui a une vie absolument énorme, puisqu'il vit encore alors qu'il est né en 1930, et il a une carrière époustouflante.
Il a une carrière époustouflante, c'est un très très grand musicien, très grand saxophoniste de jazz.
Oui.
Il se fait un petit peu plus rare maintenant, mais il est âgé. Mais il faut saluer à la fois sa musique et son style.
Alors l'arrivée de Rollins, d'ailleurs, succède un petit peu à d'autres façons de jouer du ténor, un ténor. Un petit peu de la lamentation. Rollins a une sonorité très agressive, très, très puissante, très profonde. Et la seule concurrence qu'il a eue, je dirais, c'est Coltrane, qui arrive et qui lui aussi met un autre style. Et Rollins, à ce moment-là, se met en retrait. Si je me souviens bien, il a une période de quelques années, moins 2 ou 3 ans, où il décide de réétudier le saxophone, tellement la concurrence et l'apport nouveau qu'avait fait Coltrane avait été important et avait été déstabilisant pour lui. Et Rollins revient avec une autre façon de jouer, encore plus personnelle, encore plus agressive, mais très très intéressante.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il a fait ses classes à l'école du bebop ?
Absolument, oui, oui, tout à fait. Il a fait ses classes à l'école du bebop. Et on retrouve d'ailleurs Sonny Rollins, notamment au début des années 50, avec le trompettiste Clifford Brown et Max Roach, pour des séances d'enregistrement qui sont remarquables.
Célèbres.
Et avec un son qui n'est pas encore celui du Sonny Rollins qu'on retrouvera après cette période au cours de laquelle, effectivement, Sonny Rollins s'est mis en retrait de la musique, en retrait de la scène et en retrait total.
Alors écoutons donc, comme nous avait annoncé Gilles tout à l'heure, une version de ce film, mais qui est une version album.
Oisif prévoyant, Alfie s'est ménagé une sortie de secours. Il s'agit de Gilda, sa gentille logeuse, honnête travailleuse, bonne à tout faire, accessoirement petite amie attentionnée. Et Gilda n'a Dieu que pour Alfie, alors que le gentil naïf local, Humphrey, un receveur de bus, la couvre d'attention. Et comme le châtiment arrive toujours par là où l'on pêche, Alfie fait un bébé à Gilda.
Illustration prochaine. À nouveau Sonny Rollins dans une version film. Poursuivons donc descriptif de ce film, poursuivons notre synopsis. Alors ensuite, Alfie est un dragueur impénitent. Il est certain qu'il ne va pas rester avec tous les bébés qu'il aurait pu faire à ses conquêtes. Mais malgré ce souci, il n'en poursuit pas moins sa quête de nouvelles aventures amoureuses. Trop occupé à séduire, bien sûr, il laisse un petit peu tomber Gilda, qui doit accoucher. Cependant, il possède une certaine forme de savoir-vivre. Il va finir par rendre visite au nouveau-né et offre à la jeune mère un bouquet de fleurs, lui, Alfie le dragueur, qu'il sort de sa poche intérieure dans son manteau. Et la confrontation entre l'enfant et le dragueur est des plus savoureuses. Il y a là une succession de plans très courts. Lewis Gilbert alterne entre le visage attendri de Gilda et celui interloqué, mais peu intéressé, d'Alfie, et puis celui vide du bébé. Écoutons une autre illustration.
Se prend au jeu de la paternité, je dirais, à temps partiel. Deux années passent en quelques instants, à base de ralentis d'enfants qui courent et de bras s'ouvrant dans un jardin ou encore de câlins tournoyant sur la plage. Lewis Gilbert n'a aucune hésitation sur le ridicule de la représentation du bonheur familial tel qu'il est vendu à l'époque à grand renfort de campagnes publicitaires. Alors, on peut voir Alfie joue au ballon, Alfie prend des photos, Alfie raconte des histoires, oui. Mais si Alfie est devenu papa, eh bien, il n'en reste pas moins volage. Son peu d'empressement à se sentir concerné par la responsabilité familiale lui vaut de se voir souffler la place. Gilda va s'en aller avec Humphrey, et alors Alfie déprime, passe une visite médicale et se retrouve avec un voile au poumon dû au surmenage, le pauvre. En fait, au sanatorium, il va se lier d'amitié avec un malade, Harry, puis surtout avec sa jeune épouse, Lily.
Prochaine illustration, toujours Sonny Rollins, avec une version du film.
On Impulse.
Know what? When she smiles that little smile of hers, I'm quite touched by it. Yeah. Now I look at her, she ain't so ugly after all.
Puis c'est au tour de la jeune Annie de se retrouver en ménage avec Alfie, tandis qu'il entretient une liaison avec Ruby, qui est interprétée par Shelley Winters. Mais Annie finit par le quitter. Alfie a appris entre-temps que Lily était enceinte. Ils acceptent tous deux l'idée de ne pas aller à terme de cette grossesse et font appel à quelqu'un de manière clandestine. Lily s'en va, Alfie va retrouver Ruby, qui ne l'a pas attendu. Pour la première fois, Alfie a trouvé son maître. Il est temps de tirer un bilan de son existence sur les bords de la Tamise. Alfie retrouve le chien du tout début du film. Tous deux partagent le même sens de la liberté. Ils sont satisfaits de leur sort. Et Alfie a cette phrase qui va servir de thème à la chanson que nous allons écouter. What's it all about?
Know what I mean? Come on, boy, come on.
What's it all about, Alfie? is just for the moment we live. What's it all about when you sorted out our fee? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, I'll be. Then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, I'll be. What will you lend on an old golden rule? As sure as I believe there's a heaven above, I'll be. I know there's something much more, something even non-believer can believe in. I believe in love, I'll be. Without true love, we just exist. How be until you find the love you've missed? You're nothing, I'll be.
C'est l'interprétation de la chanteuse Cher que nous venons d'écouter de ce magnifique thème What's It All About, qui a servi donc de thèmes chantés à la fin du film. Sonny Rollins n'a absolument plus rien à voir avec cette composition. C'est une composition de Burt Bacharach et de Hal David. Et ce qui est amusant, c'est que dans la version destinée au public américain, c'est Cher que l'on entend, et dans la version destinée au public européen et australien, c'est la chanteuse britannique Celia Black qui a été choisie. Alors c'est drôle aussi parce que cette chanson a connu un succès planétaire, est devenue un standard de jazz et a totalement occulté la musique de Sonny Rollins que l'on ne retrouve pas systématiquement dans les recueils de compositions de standards pour les musiciens de jazz. On peut dire que cette musique, cette partition musicale du film Alfie a été composée par Sonny Rollins et arrangée et conduite par le saxophoniste Oliver Nelson. La musique a été couronnée à Cannes en 65, et c'est véritablement un enchantement, n'est-ce pas, Patrick ?
Elle ponctue de façon extraordinaire l'action du film, avec des passages très lents, très mélodiques, des passages un petit peu plus puissants. Tout a commencé au Ronnie Scott's à Londres, lorsque Sonny Rollins fut contacté par les agents de Paramount pour composer sa première musique de film. Il s'agit là donc d'une première musique de film de Rollins. Et le disque qui en est sorti de cette musique, il est issu de l'enregistrement réalisé au studio Van Gelder le 26 janvier 66, à partir des sessions organisées par Bob Teal pour le film.
Oui, Sonny Rollins racontera plus tard, il disait « Je jouais au Ronnie Scott's à Londres au début de 65 ». Et j'étais en compagnie de trois musiciens de jazz britanniques et le film était en cours de tournage dans les environs. Et pendant ma prestation au club, Louis Gilbert m'a proposé de composer la musique du film. Elle fut enregistrée avec une petite formation locale constituée par Keith Christie au trombone, Toby Hayes et Ronnie Scott au saxophone ténor, l'arrangeur et pianiste Stan Tracy. Il y avait aussi Dave Goldberg à la guitare et Phil Seaman à la batterie. Le disque qui a résulté de ces enregistrements, c'est celui qui a été effectué aux États-Unis au studio Van Gelder dont tu parlais. La musique que l'on a entendue tout au long de cette présentation, c'est la plupart du temps extrait du film. Il n'existe aucun disque des enregistrements britanniques de la musique de Sonny Rollins. Alors, sous la tutelle d'Oliver Nelson, à qui l'on doit le mythique « The Blues and the Abstract Truth », aussi sur Impulse. Impulse, c'était la marque de disque
de
Sonny Rollins. Mmh. Sonny Rollins se voit à la tête d'une large formation qui comprend deux trombonistes, J.J. Johnson et Jimmy Cleveland, trois saxophonistes, Phil Woods à l'alto, Bob Ashton au ténor et Danny Bunk au baryton. La section rythmique obligatoire, composée de Walter Booker à la contrebasse et de Frankie Dunlop à la batterie, ainsi qu'un piano, Roger Kellaway, et une guitare que j'affectionne particulièrement, qui est celle de Kenny Burrell.
Oui, il avait pris quand même des grosses pointures.
Hein,
Phil
Woods.
Et absolument, et J.J. Johnson, Jimmy Cleveland, etc. Oui. Et ça s'entend. Qu'on le veuille ou non, ça s'entend. C'est assez formidable. Alors, la donne n'est pas fondamentalement différente, mais induit néanmoins une richesse de timbre peu commune dans le jeu de Rollins. Preuve s'il en est que sa curiosité l'a conduit à tout essayer sans a priori. Il raconte encore, pour l'album de la BO d'Oliver Nelson, Oliver Nelson a écrit l'arrangement de ma partition qui durait au départ 11 minutes. Il en a fait une partition de 30 minutes. Oliver a étoffé ce que j'avais composé. C'était un merveilleux arrangeur.
Écoutons toujours Alfie Stein.
Voilà, c'est la...
À la manière de Miles Davis, Sonny Rollins est à l'aise dans toutes les situations, dans tous les contextes. On peut dire qu'il est capable de revêtir n'importe quel costume sans jamais trahir sa personnalité profonde, en restant donc avant toute chose lui-même. Nous sommes loin, bien sûr, des tentatives orchestrales que Gil Evans mit sur pied pour le trompettiste. Mais c'est là encore un point d'ancrage qu'il paraît difficile de ne pas prendre en compte. C'est d'autant plus vrai qu'en tendant l'oreille, on entend des échos aux albums Milestones ou Kind of Blue sur des plages comme Street Runner with Child ou Transition Theme. Plus nerveux, moins soyeux, c'est, je dirais, surtout de la bouche de Rollins que vont s'exprimer les moments d'excitation, les instants de trouble, les interrogations et les approches lascives. « Hey, it's younger than you are. » Peut-être que l'éducation involontaire de ce fêtard d'Alfie n'aura finalement aucune incidence sur le spectateur, mais il y a des chances que la musique de Rollins, elle, puisse bien aider les quelques curieux que ça intéresse à se former l'oreille à la beauté du langage jazz.
Écoutons une nouvelle illustration, cette fois-ci sur une version album. Thank you. Nous allons, si vous voulez, reparler un petit peu de Sonny Rollins et du son très particulier qu'il a adopté dans ces dernières années, mais qu'on ne retrouve pas entièrement dans l'illustration de ce film. Gilles, qu'en penses-tu ?
Je pense que le son de Rollins dans le film Alfie est beaucoup plus, en tout cas pour ce qui me concerne, proche de ce que j'entendais à l'époque de Max Roach et de Clifford Brown, un son beaucoup plus suave, beaucoup plus lascif, son qu'on ne retrouvera pas par la suite, notamment lorsque Sonny Rollins se trouve confronté au succès et à la présence géniale de John Coltrane. Il aura un son qu'on peut qualifier d'un peu plus agressif ou peut-être plus...
Oui, c'est ce que je pense aussi, effectivement.
Oui.
Et puis, on en a parlé, Coltrane, somme toute, lui fait prendre la retraite. C'est-à-dire, Rollins ne joue pratiquement plus pendant quelques années, un peu comme Coltrane lui-même qui était allé faire son stage, un stage spirituel, mais spirituel, on va dire spirituel et musical, avec ses gammes indiennes. Il a travaillé énormément de gammes indiennes, travaillé les quarts de ton, si on peut dire. Et Rollins lui-même prend le même chemin en s'absentant un petit peu des concerts qui oblige à jouer d'une part souvent les mêmes thèmes et puis à jouer peut-être avec un style qui plaît au public. Alors le jeu précédent plaisait. Moi je trouve on était au départ dans la lignée aussi de Lester Young, beaucoup plus que de Charlie Parker.
Beaucoup plus que Charlie Parker. Néanmoins, l'orientation bebop est flagrante chez Sonny Rollins. Il n'utilisera jamais ou quasiment jamais les traits d'un Lester Young. Il y a eu les influences successives de Rollins, et notamment les influences sud-américaines. Je ne citerai que Saint Thomas, mais
oui, voilà, un peu comme avec Dizzy, qui lui aussi,
un peu comme Dizzy, absolument,
voilà, qui reprend un petit peu ces rythmes de samba ou de rumba et qui fait pénétrer le jazz avec ces rythmes sud-américains. Bon, je crois que on a fait un petit peu le tour de Rollins. Christiane, tu vas nous dire en conclusion un petit peu ce film comme tu l'as ressenti, et puis peut-être tu vas parler des futurs programmes.
Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé cette musique de ce film. C'est quelque chose qui vous va droit au cœur. Enfin, c'est vraiment une très belle musique. Et moi, je l'ai découvert. J'ai découvert cette musique.
Et quel contraste avec le personnage cynique et détestable d'Alfie.
Je dois dire que le personnage est assez détestable. Enfin, chers auditeurs, je voudrais vous dire que, eh bien, il faudra nous retrouver le mois prochain parce que nous aurons un autre film extrêmement intéressant, Shadows, un film de 1959. Et je dois dire qu'un des intérêts majeurs de ce premier film de John Cassavetes réside dans la captation cinématographique du travail d'improvisation des acteurs et également dans la musique, elle aussi largement improvisée, de Charles Mingus et des solos de saxophone de Sheffield Hedge. Chers auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Gilles Segaz, à bientôt.
À bientôt, Christine Blain.
Patrick Durand, à bientôt.
À bientôt, Christine Blain.